Aujourd'hui, 11 août, Agathe, 9h03. Je me lève dès la première sonnerie du réveil. Je veux dévorer nos deux derniers jours. J'ouvre les volets, le soleil en profite pour me brûler tranquillou les yeux. J'aime pas la chaleur, j'aime pas le froid non plus, je l'ai dit. Mais il a un avantage non négligeable. On peut se couvrir, superposer les pulls, les vestes, les écharpes, pour l'oublier. Quand il fait trop chaud, on peut pas faire mieux que nu et encore, ça passe pas partout. Résultat, je me traîne et je transpire. À mon grand désespoir, ma sueur ne ressemble pas à celle des publicités. Une légère moiteur que l'on peut masquer avec un déodorant à la vanille. Non, ma sueur peut décoller de la tapisserie. Je voudrais vivre sempiternellement en automne ou au printemps, ou être équipé d'un thermostat intérieur. Je descends l'escalier, la maison est silencieuse. Emma est sûrement allée se baigner. Je fais couler le café et griller deux tranches de pain de mie. Je sors le beurre, avec de vrais cristaux de sel, et la confiture de fraises. Quand j'étais petite, Mima me préparait pour le petit déjeuner une recette que j'étais la seule à aimer. Elle battait des jaunes d'œufs et du sucre en poudre au bain-marie, jusqu'à ce que le mélange devienne légèrement mousseux. Elle m'avait expliqué qu'il s'agissait d'une variante sans alcool d'une recette italienne, le zabaglione, qui accompagnait normalement gâteaux ou fruits. Pour ma part, je le dévorais à la petite cuillère, puis je léchais le bol. Je suis en train de tout installer sur un plateau quand j'entends un bruit dans le jardin. Je regarde par la fenêtre. Un homme est posté près de la balancelle. Il regarde vers la maison. N'écoutant que ma bravoure, je plonge au sol et me retrouve à plat ventre. C'est toujours pareil. La peur envoie des ordres à mon corps sans passer par la case cerveau. J'entends mon cœur battre dans mes oreilles et je tremble à 7 sur l'échelle de Richter. L'alarme est désactivée et mon téléphone est resté dans la chambre. Il faut que je parvienne à monter, mais auparavant je dois trouver une arme. Il ne sera pas dit qu'Agathe Delorme a capitulé sans lutter. Je saisis la première chose qui me tombe sous la main. Il se trouve que c'est un couteau à beurre, ma chance est manifestement restée à l'étage avec mon téléphone, mais je n'ai pas le temps de chercher mieux. J'entends l'homme qui approche. Je rampe jusqu'à l'escalier. Dans ma tête, je suis John Rambo. Dans la réalité, je suis un éléphant de mer. Arrivé en bas des marches, je perçois des voix. Une femme parle avec lui. Je n'ai aucune chance face à deux agresseurs. Je m'accroupis et je m'apprête à monter quand une tête apparaît contre la vitre fumée de la porte d'entrée. Ah ! Y a quelqu'un ? Demande la voix. Non ! Je hurle. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît ? On est les nouveaux propriétaires. Prouvez-le ! J'entends la femme s'esclaffer. L'homme tente de me convaincre. On a trouvé l'annonce via l'agence immobilière des 5 cantons. Le vendeur s'appelle Jean-Yves Delorme. On a signé le compromis chez Maître Etcheverry. J'ouvre la porte, le couteau à beurre serré dans ma main. Ils sont jeunes, une petite trentaine d'années. La femme me tend la main. Marie Louillet, enchantée. Michael Louillet, dit son mari en serrant ma main à son tour. On est désolé, on pensait qu'il n'y aurait personne. On a juste besoin de prendre quelques mesures dans le jardin pour la piscine. On ne doit pas se tromper, il y a des limites à respecter selon le PLU. Sinon l'urbanisme pourra nous la faire détruire. Vous avez loué pour les vacances ? Je suis la petite fille de la propriétaire, enfin de l'ancienne propriétaire. Agathe Delorme. Oh, désolé, fait la femme. J'ai perdu ma grand-mère récemment, je sais combien c'est dur. Dites, on veut pas vous embêter, mais puisque vous êtes là, ce serait possible qu'on prenne quelques mesures à l'intérieur? On aura les clés qu'à la fin du mois et j'aimerais commencer à acheter des meubles. J'ouvre la porte en grand pour les laisser entrer. Aucun mot ne peut sortir de ma bouche. Je suis comme sonnée, ramenée brutalement dans une réalité que je m'emploie à snober. La femme pose sa main sur mon épaule au passage. Le geste convoque les larmes dans mes yeux. Les gestes de réconfort me font toujours pleurer, plus sûrement que les chagrins eux-mêmes. Je les observe de loin. Maître en main, il vérifie la longueur du mur du salon, la hauteur au-dessus de l'évier. Des bribes de phrases me parviennent. C'est pas un mur porteur, on pourrait le casser. Ce sera beaucoup plus spacieux sans le buffet. Je verrais bien le meuble télé ici. Je me réfugie dans la cuisine et regarde mes tartines grillées qui me font plus envie. Agathe ? Emma vient d'entrer. Je lui explique la situation en quelques mots. Ils sont en haut, si tu veux aller les voir. Tu viens avec moi, elle demande. J'ai pas trop envie. Tu devrais. Tu pourras en profiter pour enfiler quelque chose. Je baisse les yeux et réalise avec effroi que je suis en culotte. Elle rit tellement qu'elle me contamine. Je la suis à l'étage et pendant qu'elle se présente, je passe une robe. Quand je les rejoins, ils mesurent le placard dans la chambre de papy et Mima. Sur la table de chevet, une photo de mes grands-parents nous surveille. C'est ma pièce préférée, nous dit Marie Louillet. Elle est très lumineuse et on aperçoit les Pyrénées au loin. Ce sera la chambre de notre enfant. » Elle se caresse le ventre. « Vous êtes les premières au courant, on l'a encore dit à personne. On va être heureux ici, » ajoute son mari en l'enlaçant. « Ils sont mignons, mais ils vont finir par me filer du diabète. » « J'imagine que vous êtes attachée à cette maison, » dit-elle. « Quand je suis allée dans la maison de ma grand-mère pour la dernière fois, j'ai remercié chaque pièce pour les bons moments que j'y avais passés. Sincèrement, je crois que ça m'a aidée à lui dire au revoir. Si ça peut vous aider aussi. » « On verra ça, » je réponds. « On n'y est pas encore, il nous reste 2 jours. » Elle hoche la tête et ils retournent à leur mesure. 10h14. Emma referme la porte. Ils viennent de partir. « Une nouvelle famille va grandir ici, » fait-elle. « Ils me plaisent bien. Je suis sûre qu'ils seront heureux dans cette maison. » Je hoche la tête pour ne pas la laisser sans réponse, mais la vie m'a plusieurs fois prouvé qu'elle était imprévisible. J'imagine Mima et Papy, 60 ans en arrière, prenant les mesures des pièces pour y installer leurs meubles. Ils avaient la vingtaine et la certitude d'être heureux. Ils l'ont été la plupart du temps, même s'ils ont dû affronter le plus profond des chagrins. Mon café est froid, j'en fais couler un nouveau. « Tu sais ce qu'on devrait faire ?» demande Emma. « Pas encore. » « Emballer des affaires de Mima et les donner à une association. Bah, »« T'as oublié que notre cher oncle faisait vider la maison par une entreprise ?»« J'ai absolument pas oublié. Mon projet a 3 objectifs. Faire une bonne action, offrir une belle seconde vie aux affaires de Mima et emmerder tonton gencive. « Tu deviens pire que moi. Je t'adore. » 11h30. On a rempli 3 grands sacs. Chaque vêtement a tiré un souvenir. La robe bleu ciel que Mima avait au mariage d'Emma, le gilet écru de mon retour de la clinique, le jean que je lui avais fait acheter, le chemisier bleu roi qu'elle portait tout le temps. Les imaginer sur des personnes qui en ont besoin me réconforte un peu. Depuis toujours, j'ai un attachement démesuré aux objets, comme s'ils étaient dotés de sentiments. Je souffre pour eux quand ils sont abandonnés. À 6 ans, j'ai fait tomber par la vitre de la voiture une petite figurine que j'avais eue dans un paquet de lessive. Elle n'avait aucune valeur et je n'y étais pas plus attachée que ça. Pourtant, l'imaginer seule sur la route, au milieu des voitures qui roulaient, risquant à tout moment de se faire écraser, m'a empêchée de dormir pendant une nuit. À 15 ans, le chouchou qui tenait mes cheveux pendant un cours de surf a glissé et disparu dans l'océan. J'en ai pleuré pendant des heures. À 20 ans, j'ai eu de la peine pour un petit pois rester seul au fond de sa boîte et je l'ai fait glisser dans la casserole où l'attendait sa famille. À 30 ans, il restait 2 brosses à dents à la pharmacie. J'ai d'abord choisi la rose, puis je l'ai reposée pour prendre la verte, avant de prendre conscience qu'il était inhumain d'abandonner la première après lui avoir fait une fausse joie. Les 2 se sont évidemment retrouvés dans ma salle de bain. Mon cas est déjà intéressant quand il s'agit d'objets lambda. Il devient fascinant quand on passe aux objets qui ont une valeur sentimentale. Ceux qui me sont offerts par des gens que j'aime, ceux qui ont appartenu à mes proches, ceux qui me rappellent un bon moment. Si je le pouvais, je conserverais toutes les affaires de Mima. Je garderais la maison et je la mettrais sous cloche pour qu'elle garde son odeur, sa voix et nos souvenirs. Mais c'est impossible. Plus jamais je n'emprunterai cette rue ni ne passerai devant ce portail. On devrait choisir ce qu'on veut emporter. C'est-à-dire, demande ma sœur, visiblement aussi remuée que moi par cette immersion dans le passé. Vu que la boîte à bijoux est vide, j'imagine que Jean-Yves et sa famille ont déjà pris ce qu'ils voulaient. Le reste va disparaître. Nous aussi, on a le droit à nos souvenirs. Elle réfléchit quelques secondes. Je suis persuadée qu'elle se demande si c'est légal, si on peut nous le reprocher. « T'as raison », finit-elle par dire. 12h54. On n'a pas pris grand-chose. Le cahier de recettes, le carnet de poèmes, le parfum de papa, le magnétophone de papy, des albums photos, la luciole, le Popples, la montre de papa, le manche-disque, le chemisier bleu roi, le dérouleur de papier toilette, c'est papy qui l'avait fabriqué dans du bois. Quand on déroulait le rouleau, il faisait un bruit sourd. On en prenait toujours trop quand on était petite, alors systématiquement, Mima nous disait à travers la porte, « Doucement, le papier !» C'était devenu un jeu. Il prendra place dans mes toilettes. Et chaque fois que j'utiliserai, j'entendrai la voix de Mima.